for my sin. It's highly unlikely to my fellow man be remembered as a fool. Opinion
au 12 juillet prochain, le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émile-Île à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Klopelgag, Candle and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Braque et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au salon du vinyle et de la musique. Le festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit, c'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com.
L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe Zebda, les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Kassavé invité et les harmonies gospel soul jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com.
Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche-Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com.
Cet été, le Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal. Du boulevard jusqu'au fleuve, à bord de son fameux Meg Boat. Darius, Doldrums, Fakir, I Classify, Devlux, Dear Criminals, Mead, Funkinson, Das Mortal et bien d'autres.
Du 23 juillet au 2 août, c'est toute une jungle musicale qui vous attend en pleine brousse montréalaise. Ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Mesdames et messieurs, les popeuses et les popeux, bonjour. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous souhaite également une bonne remise de votre cuite post-Comic-Con, qu'elle soit éthylique, pécuniaire, spirituelle ou un mélange des trois. J'espère que vous avez passé du bon temps à la Mecque montréalaise de la culture geek. Mais je pense que Clément avec nous au studio, ce fut définitivement ton cas.
Oui, très clairement. Il y a la moitié de mes camarades de France qui veulent me tuer au retour.
Et on les comprend à cause de cette magnifique photo avec Billy Piper. Je te pose la question avant de continuer l'introduction parce que j'en ai envie. Est-ce que tu suis la magnifique série télévisée Penny Dreadful?
Non, mais on m'en a vanté les qualités et c'est sûr qu'il va falloir que je me mette à jour.
Chers auditeurs, Clément, vous devez écouter Penny Dreadful. C'est pas nécessairement quelque chose qui est négociable quand on s'intéresse à la culture populaire et à la culture télévisuel. Mais si vous êtes fan de Billy Piper, ce show repose sur ses épaules chaloupées de femmes magnifiques. Il faut la voir dans ce show et elle joue un rôle magnifique. Donc, bienvenue, chers auditeurs, à notre numéro 61. Pop en stock, podcast, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom. Unique en son genre sur les internets francophones, c'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, télévision, cyberculture. Vous êtes avec vos animateurs, Francis Ouellette, au micro en ce moment, et Jean-Michel Berthiaume, de l'autre bord du micro en ce moment.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Et nous avons le grand retour de deux collaborateurs que j'aime beaucoup et que je suis content de retrouver ensemble, Léa Océran.
Bonjour.
Bonjour Léa. Et Charles-Emmanuel Ouellette, dit bonhomme pour les intimes et les autres.
Enchanté, messire.
Un plaisir de te retrouver. Et Clément Pellissier, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est en cours de devenir un indispensable de cette émission. On refuse d'ailleurs officiellement que tu retournes chez toi en septembre. Nous sommes prêts à tuer, y compris les gens proches de toi. Donc, une belle bande de lone gunmen que voilà. J'exige d'ailleurs d'être throw hike si nous sommes des lone gunmen. Donc, cette semaine, vous le devinerez si vous n'avez pas lu Facebook, nous réouvrons en grand, autant en nombre qu'en thème, les X-Files en vue du retour l'an prochain, le temps de 6 épisodes, de Mulder et Scully au petit écran. Pop en stock, d'ailleurs, l'avait spéculé quand nous avions fait notre émission sur Twin Peaks le 10 février 2014, alors que nous ne savions même pas que Twin Peaks allait revenir. Nous avions dit, si Twin Peaks revoit le jour un jour, c'est une question de semaines avant qu'X-Files suive. Mais pour l'instant, tout semble évidemment aller dans cette direction-là. X-Files et Twin Peaks vont revivre essentiellement en même temps, à quelques semaines de distance. Donc, trust no one, fuck this, trust us. Donc, avant de continuer la spéculation bande, j'aimerais vous demander justement, suite à ce que je viens de dire, selon vous, si on considère que Twin Peaks, peut-être le show le plus important de la nouvelle ère moderne de la télévision, suivi d'X-Files, le digne héritier, c'est quoi le show qui va devoir suivre? C'est quoi le revival de show qui invariablement devra suivre? Parce qu'on est bon en spéculation, je pense que ça vaut la peine d'essayer de le faire encore.
Je pense pas que Millennium était assez populaire pour avoir un revival. Là.
Fort malheureusement, c'est dommage. Je souhaiterais ça de toutes mes forces. Il y a des spéculations de revival web, en fait, auxquelles accepterait de participer Lance Henriksen. Et il y a eu, sous la bannière de IDW, récemment, un revival sous forme de comic. Qui est d'ailleurs assez solide. Mais non, j'ai pas l'impression. Je pense que ça serait quelque chose d'autre, moi.
Ben, moi, je pense que rien n'est à l'abri.
Non, plus rien n'est
en
à l'abri.
En gros, c'est plutôt ça la perspective, c'est qu'est-ce qu'ils vont refaire.
Mais quel show a eu une ferveur ou a créé une ferveur tellement incroyable que dans la logique des producteurs, il faut que ça suive?
Buffy?
Oui, j'allais dire Buffy, mais...
Buffy ou Firefly?
Cheers.
Oui.
Cheers, ouais. Early Edition ou Quantum Leap. N'importe quoi, ils vont...
Un crossover, Quantum Leap, Cheers. Ouais. Oui, je veux ça hier. Moi, à mon avis, ça serait Firefly. Buffy, il y a quelque chose, il y a une finition dans Buffy. Ouais. Firefly, il n'y en a pas eu, mais on verra si les Brown Coats sont
Firefly
assez militants.
Firefly a quand même eu son film, mais ils ont comme tué la moitié du monde qui était dedans.
Il y a ça aussi, ouais, hein, quand tu as tué la moitié du monde, ça defeats the purpose.
Bah, d'une certaine façon, Buffy continue avec les comics, surtout.
Mm-hmm. Oui. Très bien.
Donc est-ce qu'un revival de Buffy serait possible, j'en suis pas sûr du point de vue de Whedon en tout cas. Mais,
les pierres à feu, en real life.
Nous le verrons.
Les pierres à feu à WrestleMania, hein? C'est arrivé l'an dernier, si je me souviens bien, en direct ou DVD.
Oui,
donc, Fred Caillou, qui va à WrestleMania avec John Cena.
Oui, c'est un très bon. Je l'ai écouté pour l'émission Pet de Lutte.
Ben, moi, je call Alf. Voilà, c'est fait. Donc, retour de sérieux. Moi, tu peux même partir le thème, Jean-Michel.
J'ai essayé, mais là, il y a tout le monde qui parle.
Juste pour la gravitas.
OK, vas-y, quand t'es prête, OK?
Moi, là, chers auditeurs, je fais partie de cette génération qui a vibré au diapason de X-Files. Pour les geeks qui ont des velléités de mysticisme, d'anarchisme, X-Files était de la porn pour l'âme et de la poésie pour l'esprit. En réécoutant récemment les épisodes, force m'est de constater que si certains de ces épisodes ont résolument vieilli, et je ne parle pas que de ce fameux épisode où Scully appelle l'Internet au téléphone pour avoir des recommandations, plusieurs épisodes sont totalement révolutionnaires, autant au niveau du ton, de la forme que du propos. Donc, en fait, parmi les nombreuses pertinences qu'a encore cette série de nos jours, à mon humble avis, c'est d'y voir sous nos yeux, on est dans les années 90 et on trotte vers le nouveau millénaire, une cristallisation, une concentration, voire même une codification très nette de l'imaginaire conspirationniste, jusqu'à en baliser certains paramètres. On en parlait tous ensemble tout à l'heure. Oui, il y eut bien sûr le mythe conspirationniste américain a eu sa part du lion. Il y a eu plusieurs récits, plusieurs romans, plusieurs films qui en parlaient, mais le codifier à ce point pendant 9 ans, de sorte à ériger une espèce de forme de mythologie de la totalité de ce qui fait dans la paranoïa américaine, c'est clairement balisé. Ce sont des paramètres qui ont été clairement balisés par X-Files.
En même temps, la conspiration avant X-Files était quelque chose qui appartenait au domaine du particulier. En fait, si on suit, par exemple, aux années 70 puis 80, c'était vraiment c'était un domaine qui était quasi exclusivement occupé par des journalistes, des reporters, des romanciers qui sont allés peut-être plus vers le côté du réalisme de la nouvelle et de la nouvelle terreur. Là.
Mais je trouve que c'est une culture qui prêchait aux convertis. Et à ceux qui en connaissaient déjà les codes, ceux qui pouvaient être justement les rares opposants à cette dite paranoïa.
Ben c'est qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que c'était une pratique extrêmement marginale, mais qui était une pratique extrêmement, comme tu dis, codée, mais qui nécessitait énormément de recherches individuelles. Louis Aymon, dans un article qu'il a fait pour l'Insoumis, a écrit un truc par rapport à comment la conspiration peut être un genre littéraire, peut être un genre artistique. De dire quand tu prends certains points dans l'histoire et tu les relies ensemble, ta narrative ou ta diégèse va fonctionner ou non. Si tu dis, ben, ça, c'est pas arrivé, donc ça fonctionne pas, tu peux contredire. Il faut être capable de bien raconter l'histoire pour être capable de faire une bonne conspiration. Ça, c'est quelque chose qui est devenu totalement accessible dans les années 90 quand X-Files a débarqué dans les salons de tout le monde. Avant, c'était la manne de l'érudition des gens qui faisaient beaucoup d'archives, qui fouillaient, par exemple, pour ces indices-là de conspiration. Après X-Files, les gens commencent à les voir partout.
C'est comme si, avant même l'existence de l'hyperlien permettant à tout le monde d'être un conspirationniste de salon et de se plaire dans cette culture-là, parce que c'est une culture qui est extrêmement stimulante intellectuellement, la spéculation qui est autour fait plaisir au cœur et à l'esprit, parce que c'est de bon ton et c'est bon pour la santé de s'opposer à ses maîtres, et c'est une bonne chose que de douter de tout. Ce qui me surprend, c'est que avant même l'émergence d'une véritable culture de l'Internet où ces informations-là étaient échangées rapidement, X-Files est devenu une espèce d'hyperlien pour la totalité de ce qui concernait le paranormal puis la conspiration. Là, tout d'un coup, il y avait plein de livres qui sortaient sur le marché du genre « Vous aimez X-Files? V'là un livre X-Files Presents sur tout ce qui a rapport avec les spectres. V'là un livre X-Files Presents sur tout ce qui a rapport avec les extraterrestres. »
Mais en même temps aussi, X-Files a apparu avec l'apparition domiciliaire de l'Internet. Fait que Usenet, les forums, les chats, tout ça a pullulé à la même époque de X-Files. Puis X-Files pourrait être considéré comme un des premiers exemples de water cooler show, mais le water cooler n'était pas essentiellement le water cooler de bureau qu'on connaît maintenant, mais ces forums Usenet-là que les gens allaient se rencontrer pour partager à la fois leur appréciation de la télésérie, mais aussi déculper les informations qui sont... Déculper et pointiller les informations qui étaient dans chacun des épisodes.
Mais c'est que de par son thème et de par ses personnages, c'est une émission qui appelait à cette clientèle-là, qui était appelée à se servir d'Internet. Et puis donc, ça n'a pas le choix de devenir la série phare à être discutée sur Internet, parce qu'elle se développait en même temps que Internet rentrait dans les maisons. Parce qu'en 93, faut être assez tripeux d'informatique pour avoir Internet. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est 95, 96, ouais, peut-être, ça commence à vraiment rentrer un petit peu plus dans les maisons, dans les bureaux, tu sais.
C'est précisément des personnages et des archétypes d'êtres humains comme les Lone Gunmen qui sont à l'avant-garde, justement, de la propagation de la culture qui va venir avec X-Files.
C'est ça, parce que t'avais des gens, par exemple, qui écoutaient un épisode, puis qu'après ça, ils disaient, ben, il y a un gars sur ma rue qui a l'Internet, puis avec son dial-up, il est capable de montrer une photo du Yeti. Puis là, les gens utilisaient peut-être, tu sais, The X-Files comme propagateur de l'Internet.
Voilà.
Puis c'est pas pour rien que à plusieurs reprises, les épisodes de X-Files nous montrent des ennemis qui sont précisément des ordinateurs.
L'intelligence artificielle va être un thème récurrent dans la série.
Un thème récurrent dans la série, et ce sera un thème récurrent par la suite. Et je trouve aussi que par rapport à tout ça, il faut considérer autre chose, à mon sens, avec X-Files. Déjà, je tiens à dire que le générique fait toujours partie des génériques les plus terrifiants de séries télévisées, à mon sens.
D'ailleurs, à cet effet, peut-être que des auditeurs pourront nous répondre. Peut-être que la paresse de ma génération en ce qui concerne la recherche virtuelle en fait que je ne suis pas allé suffisamment loin dans mes recherches, mais si quelqu'un peut nous dire quelles sont ces étranges formes sphériques qui ont l'air de cracher de la glu.
J'ai jamais su, moi non plus.
Mais personne ne sait ce que c'est que ces étranges sphères qui ressemblent à des oranges fracassées qui laissent couler une pulpe un peu trop concentrée.
C'est une graine qui pousse.
C'est une graine qui pousse.
ça. Ouais. Une gymnasium.
Ça serait presque genre une gymnasium, mais avec comme un split que t'as les deux.
Ça serait ah ben, tu vois, ça, c'est un mystère qui a été élucidé.
Ouais. Ouais. Ça me faisait presque penser aux créatures des abysses. Vous savez qu'on voit dans les documentaires
Des
créatures qui sont à des profondeurs absolument inaccessibles et qui sont monstrueuses et terrifiantes.
Ça va bien avec, justement, certains des sous-thèmes lovecraftiens qui traversent la série.
Oui, ben, c'est intéressant, Clément, parce que tu disais le thème en lui-même, juste le générique était épeurant.
Ouais,
c'est ça. Un des trucs que Chris Carter, le créateur de la série, a mis de l'avant, c'est vraiment, il dit, quand il est venu pour présenter la série, il a dit, on va remettre de quoi d'épeurant à la télé.
C'est ça.
Parce que dans le paysage télévisuel, surtout Fox, est qui est la chaîne qui a fait vivre X-Files, est une chaîne qui était émergente, et puis la plupart de ses succès étaient principalement des comédies. Et puis vraiment, par rapport à ça, ils ont dit, tant qu'à développer des nouvelles séries et puis aller compétitionner avec les autres réseaux, on va essayer de développer des offres télévisuelles qui sont complètement différentes. Fait que quand Chris Carter est arrivé avec de quoi qui se voulait épeurant, et puis le pilote a été accepté à ce moment-là.
Ben, tu vois, ça, c'est une autre des subversions importantes que derrière X-Files. Si la série essayait de saisir le zeitgeist de son époque, ses obsessions conspirationnistes, puis en même temps, elle y a énormément contribué aussi, elle a gonflé le zeitgeist, on a tendance à concentrer toutes les révolutions qu'il y a eu dans X-Files autour de ce thème-là. Mais c'est une révolution télévisuelle aussi, au niveau de la représentation de l'horreur et de la peur. Surtout sous l'égide d'une chaîne comme Fox, on a tendance à oublier... D'ailleurs, je réécoutais Home, l'épisode avec la famille Peacock de Consanguin Cannibal, hier pour le pur plaisir. Et mon Dieu, que si c'est courant de voir des scènes horrifiques en télévision comme ça de nos jours, à l'époque d'X-Files, ça ne l'était pas.
C'est la raison pour laquelle je ne regardais pas. Excuse-moi. C'est la raison pour laquelle je ne regardais pas la série quand j'étais... Enfin, j'essayais d'esquiver la série quand j'étais plus jeune parce que j'étais terrifié par certains épisodes qui sont juste psychédéliques. Il y a des personnages de psychopathes qui sont absolument, à mon sens, encore inégalés.
Absolument. Inégalés aujourd'hui. Parce que mentionnons que si le mal y est si le mal dans X-Files est occasionnellement une essence éthérée, si parfois ce sont des monstres bien terre-à-terre, si parfois ce sont des démons judéo-chrétiens et d'autres fois des créatures qui viennent de l'espace, il y a eu aussi dans X-Files de la place pour le mal humain dans ce qu'il a de plus basique. Il y a eu un épisode qui a bouleversé tout le monde.
L'épisode sur le nécrophile.
Oui, Irresistible. Où,
Revient en plus, il est dans deux épisodes. Ouais.
Et ils avaient tout changé dans l'émission à partir de ce moment-là, j'ai l'impression, parce que là, tout d'un coup, le paranormal quittait et on nous montrait une forme de mal qui était presque effrayante.
Je ne sais pas s'il n'avait pas tout changé, parce qu'au départ, on lit les premières entrevues vraiment quand la série vient de commencer, ils sont encore dans la saison 1. C'est vraiment d'emblée, étant donné qu'on a deux personnages, ça c'est un duo qui est très important, c'est donc on a le Scully qui a un bagage de médecin, qui est la sceptique, et puis on a Mulder qui est le super agent du FBI, qui croit à tout ce qui est paranormal. Et puis au départ, c'est vraiment, on regarde dans toutes les premières entrevues, c'était d'emblée comme quoi il y a bien des épisodes où c'était... pour s'avérer véritablement paranormal. Mais il y a des épisodes qui... c'était vraiment dans les idées de base de la série qui est souvent... les causes paranormales auraient finalement eu des causes
élucidables.
Élucidables, rationnelles, que Scully aurait pu expliquer avec la science. C'est arrivé comme... une ou deux fois dans la première saison, je pense, et puis c'est plus jamais arrivé.
C'est plus jamais arrivé,
à part quelques soirs en série ou des
trucs. C'est toujours de laisser l'idée qu'on ne peut être certain à 100% si c'est paranormal ou non, finalement.
Puis essentiellement, c'est une fictionnalisation de dossiers mystères.
Oui, exactement.
Cette optique-là qui...
L'autre émission qui avait un thème musical très effrayant dans le même genre, d'ailleurs.
C'est par rapport, excuse-moi Clément, tu pourras y aller par la suite, dossier mystère qui était Unsolved Mysteries en anglais, et puis il y avait Rescue 911, il y avait Cops, qui étaient toutes les premières séries réalité qui cartonnaient, qui fonctionnaient vraiment beaucoup à l'époque. C'est pour ça que le premier épisode de X-Files s'est écrit inspiré de documents réel.
Parce que ces émissions-là jouaient toutes à Fox.
Exactement. Et puis, c'était des séries qui avaient beaucoup, beaucoup de succès. Le réel avait beaucoup plus de succès que de la fiction à la télé au moment où c'est sorti. Donc, ils ont été mettre ce petit truc-là. Et je ne sais pas si en français, ils ne l'avaient pas toute la première saison. Parce que moi, j'ai un oncle qui, à ce jour, dit que c'est tout vrai X-Files.
Wow!
Clément, tu allais dire?
Oui, ça va complètement dans ton sens, dans le sens où je me rappelle d'une conversation avec une amie qui me disait qu'elle n'aimait pas du tout X-Files parce que justement, il y avait ce côté jamais élucidé qui l'a dérangé au plus haut point, c'est-à-dire que les enquêtes de X-Files, au moins dans les premières saisons, ne sont jamais fermées et les ennemis reviennent, les ennemis ne sont jamais vaincus. Il y a toujours ce côté incertain, mais pour moi, c'est la codification même du fantastique. Et oui. Du genre fantastique, c'est que le bon fantastique, c'est celui qui te fait douter. On va forcément parler à un moment donné de Blood, de l'épisode Blood, forcément. Donc je place la plug dès maintenant. Blood, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment savoir si le personnage, le méchant de l'épisode, qui est exceptionnel, si le personnage est fou. Ou si il est vraiment victime d'hallucinations visuelles qui sont de véritables menaces effectives avec ce côté informatique paranoïaque. Et pour moi, l'essence de X-Files, c'est les meilleurs épisodes de X-Files, c'est ceux qui arrivent à te laisser dans ce doute perpétuel de ce que tu vois ou de ce que tu ne vois pas. Et l'ennemi principal, c'est peut-être ta propre tête finalement.
Et voilà. Mais tu vois, je saute là-dessus parce qu'un des tropes qui a rapport avec X-Files, qui revient souvent et dont plein de gens se seront moqués, même un épisode de Reboot en aura fait une grande farce, c'est le leitmotiv de voir Scully et Mulder avec une arme à feu dans la main et une lampe de poche dans l'autre. Ce leitmotiv-là, moi, cette image-là, je la trouve très, très, très importante parce que ce n'est pas l'arme à feu, finalement, l'arme qui est la plus souvent utilisée par Mulder et Scully, mais c'est bien l'idée, l'image même de la lampe de poche qui est finalement ce faisceau de lumière, cette tentative de faire du sens, cette tentative d'éclairer, de pourfendre à travers les ténèbres pour avoir une vision succincte, très rapide, de ce qui est la vérité, finalement la vérité qui est ailleurs. Donc, la lampe de poche dans X-Files n'est jamais une lampe de poche, c'est une épée de feu portée par deux chevaliers, portée par deux combattants qui tentent de percer finalement les ténèbres autant qu'ils le peuvent, et c'est le thème de l'émission. Parce que finalement, X-Files ne percera jamais les ténèbres. C'est ce qui en fait la grande force. On n'aura jamais la réponse.
Et c'était le point. Les producteurs étaient vraiment furax quand ils ont vu les premiers épisodes et puis ils ont dit « OK, t'as jamais de conclusion ». Donc, ils n'ont jamais de conclusion définitive. Puis, Chris Carter, le créateur, il a dit « Oui, oui, mais c'est ça le point. » Et puis, à ce moment-là, semble-t-il qu'il y a eu des discussions très animées dans les bureaux, mais ils sont venus qu'à rajouter Scully, qui écrivait son journal et qui était donc de la narration par-dessus, et puis qui emmenait une sorte de conclusion qu'on n'aura pas de conclusion. Et puis, c'est ça, Chris Carter était tout à fait contre l'idée au début, mais c'est venu qu'à devenir un des éléments importants de la série, puis ils sont venus qu'à s'en servir.
Il faut dire que Chris Carter, aussi dans le genre showrunner, fonction de quelqu'un qui gère un show à bras raccourcis en s'entourant de l'équipe qu'il veut, ça ne s'était jamais vu à ce niveau-là. Il y avait évidemment Rod Serling qui avait maintenu Twilight Zone à son rythme avec son esprit, avec l'esprit de son écriture, disons, mais ça ne s'était jamais vu quelqu'un qui règne en maître à ce point-là sur un show de télé avec une telle maestra.
Je dirais qu'on c'est contemporain, Babylon 5, Michael Straczynski. C'est les mêmes années. Je ne sais pas quelle arrive en premier.
En fait, je trouve ça très important que tu mentionnes Babylon 5.
Je pense que c'est les deux shows qui amènent...
Il y a Hill Street Blues aussi.
Oui, c'est un des fondateurs justement de ce que c'est avoir un showrunner. Mais toi, dans le cas de Straczynski, c'est quelqu'un qui a littéralement supervisé la totalité des épisodes. C'est ça qui est complètement aberrant.
C'est lui qui a scénarisé la totalité des épisodes.
C'est complètement fou. C'est aberrant.
C'était jamais vu jusqu'à ce que West Wing le fasse pour les quatre premières saisons.
Oui, non, mais on est dans un cas d'espèce avec Straczynski. Ça s'était jamais vu en télévision. Surtout que, fort malheureusement, Babylon 5 souffre à ce jour de la comparaison avec Star Trek Deep Space Nine. Et c'est un énorme débat d'espionnage industriel, de refus de bataille qui mérite une émission éventuelle.
Straczynski versus Ira Steven Bear. Ouais,
oui,
absolument.
Tout à fait. Parmi les autres petites révolutions qu'X-Files nous aura servi, c'est d'aller grappillé sans honte dans ce qui était le très populaire catalogue Nouvel Âgeux de l'époque. C'est d'aller autant faire référence de façon ouverte à Von Däniken et le chariot des dieux, à Whitley Strieber et son communion, mais il y avait une absolue, un absolu respect pour ce matériel-là. On voulait évidemment sortir des sentiers de ce qui avait rapport avec le Nouvel Âgeux, mais en se le réappropriant et même en lui donnant du oomph. En donnant une sexualité à tout ça. Il ne faut pas oublier qu'X-Files est un show qui était comme à l'époque très sexy. À mon avis, c'est là l'autre grande révolution de ce show de télé. Rappelons qu'à l'époque d'X-Files, le show qui a un record de code d'écoute, c'est Baywatch, qui est un show qui joue en même temps. L'arrivée de Scully... n'était pas probable. D'ailleurs, dans toutes les déclarations de ce qu'il recherchait comme comédienne, tout le monde avait dit « Nous la préférerions blonde, avec des jambes plus longues et plus physiques. C'est un personnage beaucoup trop intellectuel. » Et Dieu seul sait que la présence de Gillian Anderson à l'écran a sauvé la sexualité en solitaire de toute une génération de femmes et d'hommes qui, tout d'un coup, avaient quelque chose, quelqu'un sur qui fantasmer jusqu'à ce jour. Ça a changé la vie sexuelle de toute une génération, Gillian Anderson, qu'on le veuille ou non. Et à un tel point... À un tel point que Baywatch, pour la petite anecdote, aurait eu à l'époque, ils se seront fait un show qui est une espèce de spin-off inspiré d'X-Files qui s'appelait quelque chose comme
Baywatch Nights.
Baywatch Nights.
C'est genre la 5e ou 6e, c'est vraiment la saison de fin de
c'est
Baywatch.
C'est la saison de fin de Baywatch. C'était... où tout le monde est proprement sapé et... à faire des investigations sur les choses qui se passent sur le bord de l'eau. Souvent
la nuit,
paranormal.
La nuit, exactement.
La nuit, bien sûr, oui. Parce que c'est là que les crocodiles mutants et les esprits de l'eau ressortent.
Ça aussi, c'est une émission en soi-même, là.
Oui, effectivement. Mais on a quelque part, j'ai l'impression, énormément banalisé certaines des spéculations, certaines des idées qu'aurait eu X-Files en disant bon, « mais c'est une évidence maintenant ». Par exemple... lorsque un spin-off de X-Files se fera avec les personnages des Lone Gunmen, ça durera une saison, on a tendance à oublier que quelques mois avant que ça se passe, le 11 septembre, le World Trade Center est précisément le type d'attaque qui aura eu lieu et spéculé. Dans le premier épisode, dans le pilote de la première saison de Lone Gunman.
Au quatrième épisode à peu près. Mais ça met le doigt sur quelque chose de très intéressant par rapport à la démarche à la fois d'X-Files et aussi de ses spin-offs et aussi la présence de l'Internet ou de l'importance de l'Internet à cette époque-là. C'est que ça, c'est un fait que j'ai jamais réussi à contre-vérifier, mais il me semble que dans mes lectures de bol de toilette, quand j'avais 14 ans, il y avait un article qui disait que Chris Carter, Frank Sputnitz et plusieurs des grands écrivains, je ne veux pas dire en termes de potentiel ou de compétences, mais vraiment en termes de numéros, là, les gars qui ont le plus écrit les épisodes, ont fait partie d'un espèce de cercle de partage d'histoires, de faits vécus, de légendes urbaines. En quoi est-ce que le Usenet qu'on mentionnait tantôt, mais aussi les adresses courriels faisant en sorte que ces gens-là étaient contactables à chaque fois qu'il y a quelque chose de bizarre qui arrivait dans leur entourage. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un bon, je reviens avec mon Yeti, là, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui avait une image à passer qui était trop large pour un courriel à cette époque-là, il contactait directement Chris Carter et sa gang. Puis ça a vraiment façonné l'imaginaire de X-Files parce que c'était à la fois créé, comme on dit, par des showrunners, mais aussi par la communauté. La communauté pouvait envoyer une nouvelle croustillante à Chris Carter puis dire si ça t'intéresse, tu peux écrire une fiction autour. Puis c'est là toute la réflexion sur la conspiration comme genre, c'est de dire que eux autres, tout ce qu'ils avaient besoin, c'est cette espèce de petit fait vécu, fait divers, petite rubrique de journal où, par exemple, Clément, tu parlais de Blood, où il y a un gars qui vit le fantasme ou l'hallucination d'être un vampire qui doit s'abreuver de sang humain.
Ça, c'est Bad Blood.
C'est Bad Blood, pardon.
Blood, c'est les images, puis
Merci.
L'homme qui est contacté.
Ça, c'est Three, en fait.
Non, ça, c'est grotesque.
L'épisode Bad Blood avec les vampires, me semble, le titre, c'est 3. Three.
Non,
c'est vraiment un épisode...
Ça, c'est Solo Mondeur.
Ah, mais je suis désolé.
Ça, c'est Bad Blood.
Je dois admettre que...
Tournesol.
Ah, OK, excuse.
Ah, OK, c'est qu'il y a eu deux épisodes de vampires.
Oui, il y a un épisode,
il y a un épisode qui s'appelle Bad Blood, mais le premier qui s'appelle Three. OK, voilà.
Puis Three est sans Scully. Alors que Bad Blood, absolument. T'as une dichotomie dans
Bad Blood, c'est un effet Rashomon où tu vois la perspective respective des deux.
Exactement. C'est et ça avec Luke Wilson? Beaucoup sur leur...
Ouais, celle où dans la version
les grosses dents.
La version de Mulder, il a des buck teeth de redneck, mais pas dans la version de Scully qu'il trouve très sexy.
Tout ça pour dire, ces créateurs-là étaient informés par une communauté de geeks qui leur envoyait toutes ces nouvelles-là de comment on a trouvé des grosses traces, on a trouvé, c'est ça, mon voisin, il y a des carcasses dans sa chaise et tout. Et Chris Carter pouvait partir, tu sais, à laisser aller son imaginaire pour le meilleur et pour le pire. Ouais, ça a fait des épisodes de communauté fermée, puis ça a fait des épisodes qui prévoyaient ou qui prédestinaient quelque chose comme l'attentat du 11 septembre.
Et est-ce que tu remarques d'ailleurs, Jean-Michel, que les communautaristes, les geeks communautaristes se retrouvent dans la série elle-même? Parfois, Mulder et Scully sont contactés par ces gens-là qui disent il faut que tu ailles au bord du lac parce qu'on a vu les signes, il faut que tu ailles. Et c'est toujours le moment où Scully va dire à Mulder mais vas-y, pas là, ils sont juste fous, juste geeks. Et Mulder va les écouter et va y aller.
Et je pense aussi qu'il y a là une génération qui aura trouvé une espèce d'oreille à qui se confier. Purement et simplement parce que le geek, tout d'un coup, le maniaque de Dungeons & Dragons et de science-fiction, avait une voix, avait une validité. Il avait la possibilité d'exprimer ses opinions. Et c'était quelqu'un qui avait un talent pour la spéculation. Mm-hmm. Donc, on avait envie d'écouter. L'agent du FBI écoutait le geek et ce qu'il avait à dire.
Était le geek.
Silence des agneaux, Pulp Fiction qui arrive. Là, à un moment donné, c'est la revanche des tronches. Et on est encore dedans ce jour.
Tout à fait.
Puis dans l'épisode de Postmodern Prometheus, qui est un de mes épisodes préférés de X-Files, qui est un épisode tourné en noir et blanc, qui parle d'une histoire mêlant Dr. Frankenstein un peu. Et Cher, exactement.
Même combat.
Mulder reçoit une lettre d'une femme qui parle justement, qui raconte son histoire, qui est tombée enceinte il y a 18 ans, puis là, qu'il s'est repassé la même chose, c'est-à-dire qu'elle s'est fait endormir pendant 3 jours et qu'elle se réveille puis qu'elle est enceinte. Et là, elle dit « Ah, j'ai eu ton adresse par... une fille au show du sur Jerry Springer qui a parlé de toi, qui a eu a really hairy baby. C'est un werewolf baby. Was it a werewolf baby? Puis il dit non, it was just, tu sais, puis il donne une explication scientifique en plus pour le werewolf baby. Oui, mais c'est rire de cet aspect-là, en fait, qui démarque X-Files.
Ben, tu vois ça, on a un segment dans l'émission. Tu en auras fait la parfaite introduction. Mm-hmm. À mon avis, à partir du moment où Darren Morgan se manifeste dans le show, il y a une façon d'écrire, de représenter le show qui va modifier une façon de travailler et qui va proposer des épisodes à caractère humoristique, cynique, autocritique, dont The Postmodern Prometheus est une des expressions directes. Moi, d'ailleurs, c'est probablement une des formes d'expression de X-Files que je préfère.
Moi aussi,
en fait, quand tu parlais, Jean-Michel, de cette espèce de... finalement, de groupe, d'esprit communautariste, de gens qui s'échangent de l'information, je pense que tous les gens qui ont travaillé sur X-Files et qui ont eu du succès par la suite, et ils en ont presque tous eu, ont conservé un peu cet esprit-là de fouteurs de merde, de gens qui font peur un peu à leur poste de télévision. Je donne un exemple qui me sautait aux yeux que très récemment. Vous n'êtes pas sans savoir que Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, est quelqu'un qui a fait ses premières armes sérieuses derrière X-Files.
30 épisodes d'X-Files.
Mm-hmm. C'est un des importants. D'ailleurs, il écrit des très forts épisodes.
Je pense que c'était le showrunner de Long Gunman, en fait.
Oui, absolument, tu as raison. C'était le showrunner. Tu as tout à fait raison. Moi, je suis en train... Il fallait le faire. Je suis en train de lire correctement pour la première fois de ma vie la fameuse trilogie de Robert Shea et Robert Antle Wilson, la fameuse trilogie de Illuminatus, qui est le condensé humoristique... discordien le plus total sous forme de 3 livres de tout ce qui a rapport avec les conspirations. Avant même que X-Files existe, ce roman-là condensait comme un immense Da Vinci Code humoristique qui se fout de la gueule des obsessions américaines et de la paranoïa, la totale. Et le détective principal, un des personnages principaux de la série s'appelle Saul Goodman. Je me suis rendu compte en faisant des recherches sur Internet que le personnage s'appelle Saul Goodman, et c'est quelqu'un qui travaille sur X-Files. De toute évidence, c'est quelqu'un qui fait un fnord, qui fait une référence à l'Illuminatus Trilogy, qui est en train d'essayer de créer un brain fart chez les auditeurs, ce qu'on appelle dans le mouvement discordien et dans ce fameux roman un fnord. Lorsqu'on fait un fnord, c'est qu'on fait on fait coincer quelque chose dans la tête de l'auditeur, et pendant une seconde, l'auditeur ou le lecteur recule en faisant « ta minute, j'ai déjà vu ça en quelque part, là ». Donc, utiliser Saul Goodman de toute évidence, pour moi, c'est une référence. Et à ce jour, Vince Gilligan, sur des posts, le désavoue en disant « non. Le personnage s'appelle comme ça, parce que si vous le dites rapidement, ça fait « it's all good, man ». Mais ça, c'est le type de blague discordienne, j'en ai rien à foutre, un peu baveuse, un peu trickster, qu'utilisait Robert Anton Wilson dans son roman. Fait que pour, c'est un héritage qui est évidemment affiché.
Puis même au-delà de ça, une des choses qui est très intéressante par rapport à cette trilogie de livres-là, c'est qu'ils ont affirmé à multiples reprises, en fait, la seule affirmation qui est répétée par rapport à ce livre-là, c'est que 50% est vrai et 50% est faux, mais ben on ne vous dira jamais quel est quoi.
La série même, X-Files au complet.
Et même d'affirmer que la seule chose qu'on affirme par rapport au livre, c'est que 50% est vrai et 50% est faux, et essentiellement tautologique comme argument. Ça aussi, ça peut être amené à la banque et encaissé.
Ben, tu vois, ça va jusqu'aux influences.
Mais c'est ça, ça fonctionne dans X-Files, ouais. Que autant, Clément, qu'est-ce que tu racontais tantôt par rapport au fait qu'il n'y a pas de conclusion, ben, on est prêt à gager que pour chaque épisode d'X-Files, il y a une conclusion qui est scientifique, rationnelle, explicative et une conclusion fonctionnelle, mais que l'autre, l'interprétation reste perdue dans les éthers.
Mais dans le fond, je me permets une métaphore poétique. Je savais, Clément, que je serais foutrement poétique aujourd'hui, rien à faire. Tu sais, les faisceaux de la vérité des lampes de poche dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours vu X-Files comme essentiellement Mulder et Scully. Pour moi, ce ne sont pas juste des opposés. Ce sont les deux hémisphères du cerveau. C'est l'anima et l'animus d'un être complet et total. Donc, le message qu'il y avait derrière X-Files, c'est qu'aucune des deux explications est suffisante. Ça prend la conjonction des deux. En fait, il y a même la proposition que, en tant que culture, check ça, en tant que culture, le jour où nous accepterons cette conjonction, peut-être que nous trouverons des solutions beaucoup plus complètes à peu près tous nos problèmes de civilisation. J'ai parlé.
Voilà. moi je vais te répondre, si tu permets, avec deux éléments. D'une part, Chris Carter a déclaré à plusieurs reprises que Scully et Mulder étaient ses deux propres hémisphères à lui.
Ah oui, oh, littéralement.
Il l'a clairement dit. Et ensuite, il y a un épisode que je trouve particulièrement intéressant, mais je ne me rappelle plus du titre, mais c'est dans les environs de la saison 2 ou 3.
On va voir si on a des bons X-Files.
Juste après que...
Le premier killer, OK.
Que Scully était enlevé et que Mulder doit les retrouver et qu'il discute avec la mère de Scully.
Oh mon Dieu, c'est un épisode comme Paperclip, DOA, là, je ne me souviens jamais des titres de mythologie.
Voilà, c'est pour ça que j'ai un blanc de mémoire, mais... La mère de Scully va donner à Mulder une croix chrétienne, et Mulder est très étonné de trouver chez Scully cet artefact religieux, elle qui est toujours si pragmatique, si scientifique. Et ça, pour moi, ça fait la parfaite synthèse entre ce qui est de l'ordre de la croyance et de ce qui est de l'ordre du paranormal et de l'adhésion au paranormal et aux théories du complot. Chris Carter est en train de nous dire ces deux entités totalement différentes, mais qui peuvent se retrouver chez un même personnage. Tu peux être croyant, mais tu peux également être totalement rationnel. La croyance religieuse n'est pas l'opposé du rationnel. Je trouve que c'est assez bien dit de la part de Carter.
Dwayne Barry.
L'épisode
Dwayne Barry.
C'est Dwayne Barry ou dans...
Elle se fait enlever.
Avec... C'est soit Dwayne Barry ou dans One Breath, dans saison 2.
Ça doit être l'épisode juste après Dwayne Barry, je pense, puisque Mulder va commencer à enquêter après... Que Scully se soit fait enlever.
Ascension à ce moment-là.
Excellent.
Ça fonctionne très bien ce que tu dis, Clément, mais c'est que ces deux hémisphères-là doivent se rejoindre quelque part. Oui. Il faut qu'il y ait une communication. Et la communication qui s'exerce entre Mulder et Scully, c'est à travers la foi. Qu'elle soit une foi religieuse ou qu'elle soit une foi que si on continue, si on fait une investigation approfondie jusqu'à en mourir, parce que c'est pratiquement ça le sort ultime de Mulder, on va arriver à la vérité. Donc les deux sont alimentés par la foi.
Scully va douter. Elle le dit clairement, elle est dans le doute. Et le doute, c'est aussi un terme qui rappelle à la religion et à la foi. Scully va dire à Mulder qu'il est arrivé à la faire douter parce que l'évidence s'est imposée à ses yeux. Elle a vu qu'il se passait quelque chose. Elle a su, pour être témoin directement, malheureusement, des horreurs du gouvernement.
Et elle a eu le baby.
Elle a eu le baby. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis à douter. Et à partir du moment où elle va commencer à douter, elle va se rapprocher de Mulder d'une manière très intéressante, puisque c'est pas de l'amour, mais c'est un véritable respect mutuel et une véritable amitié qui va pousser Mulder à aller jusqu'à se sacrifier pour Scully et pour au nom de la vérité.
Ouais. Puis après, en fait, quand Mulder disparaît après la saison 7, c'est Scully qui va reprendre ce rôle-là parce que là, elle a eu 7 saisons, 7 années pour apprendre à douter. Puis là, c'est elle qui va porter ce flambeau-là, même si elle reste la femme scientifique.
Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle le porte autant plus lourdement. C'est comme une croix qu'elle porte, parce qu'à partir du moment où la vérité, si on peut dire une part de la vérité, lui est révélée, c'est beaucoup plus lourd pour elle que pour Mulder, parce que tant que Mulder a la possibilité de croire ce qui n'existe pas, il peut retrouver sa sœur. Mm. Donc pour lui, c'est l'espoir. Tant qu'il y a des choses à élucider, c'est l'espoir. Pour Scully, c'est d'une immense lourdeur. Et je trouve que ça se conjuguait très, très bien. On le sait. Si vous ne le savez pas, je vous informe rapidement, chers auditeurs, que la relation entre David Duchovny et Gillian Anderson en était une qui était extrêmement complexe, ne serait-ce qu'au niveau de la rémunération. Ça a pris énormément de temps avec une équité salariale entre les deux. Donc, ça devenait encore l'évocation de problèmes d'époque. On avait un show qui était avant-gardiste, mais on avait des salaires qui, eux, n'étaient pas en accord avec cet avant-gardisme-là. Donc, à partir du moment où, pour multiples raisons judiciaires, Mulder quitte l'émission pour y retourner à la fin circonstanciellement, il y a une forme de victoire autour du personnage de Gillian Anderson. Ça ne lui donne pas raison, bien sûr que non, mais c'est la possibilité de voir maintenant un personnage et sa perspective du combat à elle.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais tu as raison en disant ça, mais un des trucs qui devient très intéressant par rapport à ça, puis moi, je n'ai jamais délogé de cette opinion-là, malgré que toutes les représentations graphiques et la doxa populaire va dans le sens inverse, c'est que le personnage principal de X-Files, c'est Scully. C'est pas Mulder. Mulder est un personnage secondaire. Le héros, c'est Scully.
Non seulement je serais d'accord avec toi, mais il y a une théorie extrêmement populaire qui tient à ce jour et que le comédien lui-même, William B. Davis, entretient. Ouais. Il dit que le personnage principal de X-Files, c'est de Cigarette Smoking Man.
Ouais. On n'avait pas mentionné depuis le début. Non, ça prouve que... Mais son ombre était... Ouais. Sa boucane de cigarette était en entour de là depuis le début.
À mon avis, peut-être une des inventions de la culture populaire des années 90 les plus importantes de sa génération. Quiconque dit Cancer Man ou Cigarette Smoking Man reconnaît là un archétype de personnage avec tout ce qui vient avec très aisément. Et on se souviendra tous aussi de l'épisode qui est une relecture de Forrest Gump extrêmement sombre, The Musing of a Cigarette Smoking Man. À mon avis, un des 5 épisodes les plus solides de la série au grand complet, dans lequel Mulder et Scully sont à peine.
Oui, je suis d'accord que c'est linchpin, mais le héros de la série, l'héroïne dans ce point-ci, c'est Scully. Même en termes d'épisodes, Scully a 200 quelques épisodes à son actif, Mulder en a 170, 180.
Dans presque tous les épisodes, parce que, à part quand elle s'est fait enlever, là, mais c'est ça, Mulder en a beaucoup moins, il y a comme 2 saisons, 3 saisons de moins.
Mais il y avait John Doggett, un autre personnage.
Do you know John Doggett?
Et Monica Reyes.
Et quand même, l'idée de faire un ennemi principal caractérisé par la fumée, si ça, c'est pas un éclair de génie.
Absolument.
La fumée, c'est quand même ce qui est trouble par excellence, c'est ce qui est du brouillard. C'est incroyable.
Et qui était vraiment un figurant dans le premier épisode.
Absolument rien.
Mais qui avait l'air menaçant, parce que c'est sûr, il avait l'air menaçant, il avait sa cigarette. Bon, l'allégorie avec le diable s'est fait tout de suite. Je veux dire, c'est la noirceur et puis du feu, de la fumée. Et puis, ce qui est fascinant pour une série, justement, qui vient qu'à monter une conspiration aussi complexe. Et puis, tu sais, toute l'idée de la conspiration, que tout est manipulé par des marionnettistes dans l'ombre, c'est que on se rend compte que leur conspiration est absolument pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont inventé au fur et à mesure.
Voilà.
Et puis qu'il n'y avait pas de grand plan parfaitement maîtrisé. Mais c'était un genre de... C'était échafaudé au fur et à mesure.
Everybody's winging it all the time.
Yes. Exactement. Mais tu vois, vous voyez, alors qu'on trotte vers Darren Morgan, on n'a pas le choix. En parlant de Cigarette Smoking Man puis de Musing of Cigarette Smoking Man... C'est le moment, à mon avis, quand Darren Morgan écrit quelques épisodes, mais quand des épisodes comme ça émergent, C'est le moment où le fameux trope dans toutes les histoires conspirationnistes du « us versus them », du peuple contre ses élites, c'est le moment où il y a une subversion qui est faite de ça. C'est que tout d'un coup, le combat n'est pas là où on le croyait. La vérité n'est pas là où on le croyait.
La vérité est ailleurs.
Et voilà.
Un des slogans tout d'un en vogue dans la série.
Les personnages envers lesquels nous devrions avoir confiance deviennent inquiétants. Et les personnages, ce sera le cas à multiples reprises, comme The Cancer Man, ont des moments pour être des héros. Et on comprend aussi que dans leur perspective à eux, dans le fameux épisode Musing of a Cigarette Smoking Man, dans leur perspective à eux, ce sont des sauveurs. Ce sont des gens qui ont fait ce qu'ils devaient faire pour que le statu quo puisse être conservé et que les gens puissent continuer de dormir paisiblement chez eux sans craindre la noirceur.
Et pour rendre ça encore plus méta, le Cigarette Smoking Man rêve d'être écrivain. Il écrit ses mémoires qu'il envoie et qu'il essaie de faire publier que personne veut.
Trop farfelu.
Exactement.
Trop farfelu. Souvenez-vous dans l'épisode qu'il y a vraiment une reprise de la scène de la boîte de chocolat.
Oui, avec un itinérant.
Et qu'il y a finalement un statement sur l'état politique des États-Unis monumental, là, où il dit que la vie est comme une boîte de chocolat. On finit par manger voracement tout ce qu'il y a de bon sur le dessus. Et à la fin, t'es toute seule avec ta boîte de chocolat sur un banc. Et si t'es rendu au point de manger les chocolats que personne ne veut, qui sont dans le fond de la boîte et qui goûtent la merde, tu sauras que t'as essentiellement manqué ta vie à travailler pour rien.
Et ce qui est génial, c'est que l'idée d'écriture complètement farfelue du Smoking Man rejoint dans un parallélisme parfait l'écriture de Scully qui, elle, se veut rationnelle. Enfin, le plus rationnel possible. Et on va se rendre compte que son journal peut pas être complètement rationnelle puisque elle-même est obligée d'admettre qu'il y a des blancs qu'elle ne peut pas remplir dans son propre journal.
Voilà. Et puis la série en elle-même est comme ça. Ouais. Je veux dire, même au niveau de leurs idées de vouloir, en partant ils voulaient pas tout expliquer, puis il y a des trucs, je pense, c'est même pas qu'ils ont pas expliqué, c'est qu'ils ont même pas aucune idée. Comment, c'est quoi le fond de la vérité, finalement?
Les bâtisseurs de conspiration au sein même de l'histoire travaillaient de la même façon que les scénaristes.
Exactement.
C'est les gens qui scénarisaient l'histoire conspirationniste. Mais c'est à ce moment-là, à mon avis, que l'émergence tout à fait improbable du scénariste Darren Morgan va changer la figure même de l'histoire de la télévision. Je mange même pas mes mots. Même si vous ne connaissez pas Darren Morgan et que vous avez écouté X-Files, vous savez instinctivement de quel épisode on va parler et pourquoi elles ont tout changé. On dit de Twin Peaks que c'est la première manifestation d'un âge moderne, un âge d'art moderne de la télévision. Si, à mon avis, X-Files en est la continuation directe, parce qu'évidemment, le nombre de citations et de références, d'emprunts et de comédiens, même de Twin Peaks qui se retrouvent dans X-Files, sont assez importants. S'il y a une continuation, une textualité, une conscience aiguë du matériel dont on parle, on va la devoir à Darren Morgan. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Darren Morgan est le frère de Glenn Morgan, une des deux têtes les plus importantes et pensantes du show. Et Glenn Morgan sera derrière une quantité énorme d'épisodes. Et Darren Morgan ne devait pas à la base être un scénariste. Il fera une apparition dans le costume du fameux homme douve de Fluke Man, l'homme sangsue.
Deux apparitions,
on va le trouver dans Small Potatoes un peu plus tard. Mais sérieux, Small Potatoes, c'est peut-être un des épisodes les plus importants malgré lui aussi, je trouve. On lui propose un gig d'écriture et on se rend compte qu'on a sous la main un génie qui est dans la lignée directe d'à peu près tous les grands scénaristes juifs de l'histoire, parce qu'ils le sont, de l'histoire de la télévision. Arch Oboler, qui va prendre son fameux show après avoir inventé la 3D et avoir fait un des plus importants shows d'horreur de l'histoire de la radio, fera le saut vers la télé, inspirera par la force des choses Rod Serling à faire Twin Peaks et Night Gallery, Leslie Stephen par la suite qui développera The Outer Limits, cette forme d'écriture-là qu'on va retrouver par la suite autant chez Paddy Chayefsky dans tous ses téléplays et qu'on va retrouver évidemment presque systématiquement dans toutes les créations, The West Wing à Studios. Rappelez-moi le nom du scénariste. J'ai une espèce de blanc de mémoire.
Moi aussi, c'est moi qui l'ai enclenché,
et
ton blanc.
Et souvent, quand on a un blanc de mémoire sur une évidence fondamentale comme celle-là, tout le monde se la passe comme par magie.
Non, parce que tantôt, j'ai pas été capable de le dire quand je parlais de West Wing, puis ça m'a vraiment frappé, là.
Évidemment, chers auditeurs, vous savez qu'on parle du scénariste de télévision le plus important de tous les temps et que ce Mindfart est un fnord volontaire de notre part.
Mais moi, j'ai un ordinateur et pas vous.
Check donc pendant que je continue à faire un soli-là.
Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin. L'évidence vient d'être révélée. Donc,
j'ai Jack Black dans la tête à cause de l'épisode où l'épisode d'X-Files avec Jack Black et Giovanni Ribisi.
Oui, je pense
à Jack Black depuis tantôt.
Mais peux-tu croire que ça fait à peu près le troisième mind fart inexplicable qu'on a autour de Aaron Sorkin?
C'est très explicable.
Ouais, hein?
Non, c'est parce qu'on n'est pas sans coke.
Paddy Chayefsky, Aaron Sorkin.
Moi, je suis pas sans coke. Je sais pas
tout ce beau monde-là ont une technique d'écriture qui est similaire, un sens aigu de l'ironie dramatique, du second degré, de la métatextualité et de la critique du show qu'ils sont en train de développer.
Mais je trouve que l'histoire de Morgan est tout à fait, enfin son influence sur les séries qui est absolument évidente est assez incroyable. Et là, je peux pas m'empêcher de penser à l'un de mes collègues à qui j'offre cette émission, Mathieu, qui est spécialiste en devenir des effets spéciaux et qui fait des costumes. Et c'est évident qu'il a déjà tenté de faire le costume de la créature incarnée par Morgan. Mais c'est quelqu'un qui a porté au sens propre la série, dans le sens où il a porté le costume de la créature, des eaux dont j'ai oublié le nom, mais de l'épisode
The
Host.
The Fluke Man.
Voilà, Fluke Man. Merci.
L'épisode s'appelle The Host.
The Host, voilà. C'est un épisode de la saison 2, si je ne dis pas de bêtises. Le second ou troisième de la saison 2.
c'est la deuxième saison.
Ouais. Ouais, c'est la deuxième saison, parce qu'au début.
Et ouais. il a souvent témoigné en disant
deuxième
que c'était...
Deuxième épisode de la saison 2.
Voilà, merci. C'est bien d'avoir les guides à portée de main tout de même, très 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 efficace. Et il a souvent témoigné de dire que c'était une expérience absolument atroce de porter ce costume parce que c'était complètement inconfortable, il suffoquait là-dedans. C'était... Donc on se dit presque.
Tu tournes à Vancouver en plus.
Ouais.
on se dit presque qu'il a même pas eu à se forcer pour jouer la monstruosité de cette créature-là, à moitié humaine, à moitié on sait pas trop quoi. Et de voir ce qu'il a fait ensuite en termes d'écriture de scénario avec des personnages complètement torturés, complètement paranoïaques au possible, complètement fous. Duchovny a eu tendance à dire aussi que l'homme lui-même était paranoïaque sur les bords. Mm-hmm. Donc c'est un phénomène
paranoïaque un peu suicidaire aussi, il s'en est jamais caché.
Mais il est pessimiste au possible, là. Pessimiste c'est atroce, je veux dire, la mauvaise opinion qu'il peut avoir de lui. Là,
c'est incroyable. Dire. D'ailleurs, on le retrouvera en tant que comédien, ce coup-ci sans costume, avec une belle ironie, dans l'épisode Small Potatoes, où il joue un épisode que je trouve important parce que ça boucle la participation X-Filienne de Darren Morgan. Dans Small Potatoes, il joue essentiellement un kidam qui a une excroissance appendicitale de queue, qui est une queue essentiellement qu'il a dans le dos, qui lui permet de malléabiliser sa peau et prendre la forme de qui il veut. Donc, il est un peu l'équivalent de Zelig, comme dans le film de Woody Allen, dans X-Files.
Moi, j'avais Zartan dans la tête dans G.I. Joe, mais c'est autre chose.
C'est une bonne comparaison aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité et qui vit par procuration à travers les autres. Donc, évidemment, ici, c'est le fantasme sexuel d'être un agent du FBI. On le verra d'ailleurs refaire la scène de Taxi Driver en se regardant devant le miroir en faisant FBI. Et il réussit ce que peu de personnes réussissent, le personnage dans toute la série. Il séduit. Il réussit à séduire Scully, mais en se faisant passer pour Mulder. Mm-hmm. Et de faire un sermon et lui dire, si j'avais la possibilité d'avoir ton physique, je ne m'enfermerais pas dans un appartement à essayer de trouver des secrets autour des extraterrestres. J'en profiterais.
À masturber compulsivement. Parce
oui,
que
d'ailleurs,
c'est quand même très important de dire que Mulder.
Ça aussi, c'est une des grandes subversions d'X-Files. Mm-hmm. La blague revient et revient, revient. Soit Mulder est en train d'écouter un porn, soit il est en train d'écouter un documentaire animalier X.
Qui peut passer pour un porn pour cette année.
Ou des autopsies d'extraterrestres. Mais ce qui est intéressant, et ça, c'est là avant Darren Morgan.
Oui, absolument.
Le personnage
a
beau...
Tu as tout à fait raison. Il y a des éléments comique important dès le départ.
Et en passant, sa chambre porte le numéro 42 quand même.
Oui,
n'oublions pas.
Et Darren Morgan, dans son épisode de Josie Chung's From Outer Space, ça se termine sur Mulder qui regarde et là tu penses, ah, il va-tu regarder de la porn? Non, le vidéo du Sasquatch.
Le fameux vidéo de Floyd Patterson.
Et il se masturbe sur le vidéo du Sasquatch.
Y a-t-il...
Oui. Il y a comme une sérieuse suggestion qu'il est en train de se...
Ah, c'est vrai, il est en dessous des couvertes.
Ben, oui,
c'est...
oui, oui, oui. C'est, le symbole du fait que la quête de Mulder en est strictement une de masturbation. Finalement, c'est de la masturbation intellectuelle complète et totale, ce qui fait... Le symbole
puis,
est là.
Puis, vous parliez de mise en abîme, et puis, en partant, je veux dire, d'après moi, tout ce gag-là vient du fait que David Duchovny, juste avant ça, bon, il avait fait California avec Brad Pitt puis les broches de Juliette Lewis, notamment, mais il était aussi le narrateur d'une anthologie érotique qui était Les Red Shoes.
Les Red Shoes étaient connus pour ça, effectivement, son rôle de
mais je ne sais pas si ça n'a pas été placé dans la série par rapport à ça.
Très possible, hein? Très possible. Son obsession pour la porn doit venir. Ça doit être une référence ouverte, parce qu'on s'entend, X-Files n'en est pas à quelques références ouvertes près. Ils le font allègrement, ils s'en sont jamais cachés. Et donc, ça donne 4 épisodes de X-Files. Disons, une collaboration à l'idée de base de l'épisode Blood, dont on a parlé tout à l'heure. Une écriture, une scénarisation directe d'un des épisodes les plus étranges et mémorables, Humbug, avec tous les freaks du Jim Rose Circus, ce fameux épisode qui se passe dans un cirque avec des phénomènes de foire, des blockheads, des freaks. Et là, important, parce que c'est un épisode où il y a, souvent dans un cirque, on a souvent juste des monstres ou des gens qui ont des malformations. Mais pour la première fois, pour la première fois depuis longtemps dans le Jim Rose Circus qui est représenté dans Humbug, t'as absolument toutes les représentations classiques de ce que tu vas retrouver dans un cirque. Donc, t'as des freaks et des geeks. Mais les geeks, dans ce que c'est la première appellation véritable du mot, des gens qui arrachent des têtes de poule avec leurs dents ou qui s'enfoncent des blockheads, qui s'enfoncent des clous dans le fin fond du nez. Donc, on se souviendra de Jim Rose qui regarde Mulder en train de poser fièrement le pied sur un escalier et lui dire « Heureusement qu'on est là pour vous divertir, nous les freaks et les geeks, parce que la vie ressemblerait à ce gars-là là-bas. » Est-ce que vous pouvez imaginer? À partir du moment où Darren Morgan écrit cette ligne, et Chris Carter le dira, le génie derrière les épisodes de Darren Morgan, c'est comme s'il s'efforçait de détruire le show. De faire précisément ce qu'il fallait pour le déconstruire en pulpe, puis la rendre à sa plus simple expression. On ne sentait pas qu'il aimait du tout Mulder. De toute évidence, il est rentré dans Mulder avec une agressivité un peu plus Scully. Il y a un capital de sympathie un peu plus fort autour du personnage de Scully. Donc on aura Humbug, d'ailleurs dans lequel on retrouve Michael J. Anderson, ce comédien de petite taille qu'on a connu comme l'homme rouge dans Twin Peaks.
Et qui ne fait pas un freak, qui est pas un du tout. Gérant.
Qui est le gérant du putain de cirque. Et d'ailleurs, je pense qu'on lui aura donné essentiellement de A à Z le même rôle dans une importante série complètement oubliée faite par HBO en 2 saisons qui s'appelait Carnivalé, qui était, à mon avis, une série géniale, sous-estimée presque à tous les égards. Par la suite, on aura l'épisode Clyde Broxman Final Repose, À mon humble avis, qui a gagné un Emmy, d'ailleurs.
Oui. Pour le moi, je pense que c'est la meilleure heure de télé des années 80.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est à peu près...
moi, mais je pense que tout le monde peut être d'accord dans le tour de la table.
Mais il y en a plusieurs personnes qui le sont. Le niveau d'écriture est tellement puissant, tellement fort. Il y a une mélancolie, une tristesse autour du personnage de Clyde Broxman. D'ailleurs, une des plus grandes dernières interprétations de Peter Boyle, que tout le monde se rappellera de son Young Frankenstein de Mel Brooks, mais c'est un grand comédien dont on n'avait pas vu les chops dramatiques depuis longtemps. Et surtout aussi un épisode qui joue avec l'improbabilité du destin. Comment on a tous l'impression qu'on est destiné à devenir quelque chose et à faire quelque chose, mais que nos vies sont en fait un chaos incandescent dont l'interprétation est très difficile à comprendre.
Tu parlais du mot référentiel. Clyde Brockman, c'est le vrai nom d'un scénariste pour des films muets de Harold Lloyd. Et puis, tous les noms des personnages secondaires dans cet épisode-là, c'est tous des noms de stars du muet. Et ou des gens qui gravitaient autour de ce monde-là. Il y en a un, c'est Sheriff qui a le vrai nom de W.C. Field, notamment.
Wow.
Mais tu sais, des trucs que c'est ça, c'est vraiment de l'humour référentiel de scénariste.
Ben d'ailleurs, on se souviendra que l'assassin dans Clyde Broxman, Final Repose, est un garçon d'ascenseur directement sorti du muet, qui n'a pas besoin de dire un seul et unique mot pour qu'on comprenne ce qu'il fait. En fait, c'est un jeu très physique.
Ça nous donne droit à la très belle réponse, mais pourquoi est-ce que je suis du monde? Lorsqu'il demande à l'homme qui a des pouvoirs psychiques, donc, et puis qui voit le futur, il dit « Pourquoi donc je fais ça? Pourquoi je suis comme ça? »
T'as pas encore compris parce que t'es fou. T'es cinglé.
Et voilà.
Ah, c'est tout. J'ai pas trouvé d'autres réponses. Il y aura eu par la suite probablement l'épisode le plus agressif écrit par Darren Morgan. Un épisode qui s'appelle « War of the Coprophages », qui est un riff obsessionnel sur, évidemment, « War of the War of the Worlds », et qui propose cette théorie. Et pourquoi donc est-ce qu'il faudrait que les extraterrestres soient anthropomorphiques? Suggérons la possibilité qu'ils soient des insectes. Et peut-être même des coquerelles, et que l'invasion ait déjà
des
commencé.
Robots
des robots
sous forme de coquerelles.
Des robots coquerelles.
Puis c'est la guerre des mangeux de marde.
C'est exactement
c'est tout
ça.
À fait
c'est
ça.
Le titre. La guerre des mangeux de marde.
Et puis...
Et par la suite, on terminera avec un épisode qui est, à mon avis, la seconde heure de télévision la plus importante des années 90, si on exclut certains épisodes de Buffy. Un épisode qui s'appelle Jose Chong, on ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets, From Outer Space. Donc, c'est le titre d'un roman écrit par un auteur inspiré de toute évidence de Thomas Pynchon, qui s'appelle Jose Chong. Il y a une particularité autour de cet auteur-là et de ce personnage-là, c'est que on le retrouvera dans le show qui n'est pas a priori un spin-off d'X-Files, un show, à mon avis, pour lequel on réservera une émission ici, Millennium, un show qui rencontrera X-Files et qui se passe dans le même univers qu'X-Files, sans nécessairement qu'il y ait des voisinages profonds. Notre personnage de Jose Chong apparaîtra dans les deux shows. On le verra autant dans X-Files que dans Millennium. D'ailleurs, dans les deux cas, les titres sont Jose Chong from Outer Space et dans l'épisode de Millennium, c'est Jose Chong's Doomsday Defense. Et le but de ces deux épisodes, c'est de voir la conception de livres que l'auteur écrit pour parler de deux obsessions, qui sont les obsessions bien sûr du show, mais deux obsessions typiquement américaines, évidemment la conspiration d'un côté, et de l'autre côté la fin du monde, la fameuse oblitération de notre société. Ces deux épisodes qui sont écrits comme des téléthéâtres, qui sont joués par John Nelson Reilly, qui joue avec une maestra comique qui me dépasse, et les deux shows critiquent de façon tellement acerbe et Millennium et X-Files que on a littéralement l'impression que tout est dit, que c'est finalement une façon de résumer les obsessions de ces deux shows-là, mais aussi leurs faiblesses. Aussi, très rapidement, ces deux shows-là vont avoir tout dit ce qu'ils ont à dire et vont se répéter. Millennium, à partir de la deuxième saison, avait terminé de dire ce qu'il avait à dire avant même de se rendre au millénaire. Et on s'entend tous à peu près pour dire aux alentours de la cinquième saison, X-Files commençait non pas à tourner à vide, mais à se répéter aussi.
C'est la raison pour laquelle les saisons finales, les dernières saisons d'X-Files sont souvent détestées, voire même reniées par les fans.
Absolument.
C'est pour cette raison-là. Et d'ailleurs, pourquoi les épisodes qu'on citait sont si importants, à mon sens, du côté d'X-Files, c'est parce que X-Files repose sur deux articulations majeures qui sont d'une part l'arc qu'on a carrément appelé l'arc de la mythologie, c'est-à-dire l'arc conspirationniste autour de l'idée de la conspiration gouvernementale liée aux aliens, etc. Et tous les épisodes qu'on va appeler ceux des monstres hebdomadaires, donc
Monster of the Week,
qui sont des épisodes extrêmement difficiles à mettre en place, puisque encore faut-il arriver à faire en sorte que ce soit pas trop répétitif, justement. Il y a beaucoup de séries qui ont repris ce principe-là et qui malheureusement en souffrent. C'est le cas pour Smallville, par exemple, qui reprend totalement l'idée du monstre de la semaine infecté par la kryptonite, et on finit par tourner en rond pendant une saison, deux saisons. Et je pense que le génie de quelqu'un comme Morgan peut s'expliquer là-dessus, c'est-à-dire qu'il est arrivé à faire des monstres qui sont crédibles et qui font avancer le show vers l'arc mythologique, c'est-à-dire que ces monstres servent finalement l'arc conspirationniste au bout d'un moment.
Ah, t'as tout à fait raison, en fait, il y a plusieurs de ces épisodes, et c'est le cas aussi de son écriture dans Millennium. Son épisode Doomsday Defense est une critique d'une virulence monumentale sur le mouvement scientologiste et sur la pensée magique zen de Deepak Chopra. Il a décidé de faire de conjuguer Ron L. Hubbard, le créateur de la Dianétique et de la Scientologie, et de le conjuguer avec Deepak Chopra dans un personnage qui s'appelle Onan Gupta. Et la totalité de l'épisode critique l'obsession de ces cultes émergents
aux environs du 21e siècle pour trouver des réponses à ce que va être la fin du monde, mais pour trouver de la guidance aussi, pour trouver un sens à nos vies. Et ce que Rose et Chong, l'auteur, dit constamment dans les deux épisodes, c'est que arrêtez d'essayer de trouver du sens à vos vies. Vous n'en trouverez pas. Il n'y a aucune raison de trouver du sens à vos vies. Et ces shows-là ne sont pas là pour proposer des réponses à donner du sens à vos vies. Donc, à la limite, si je peux vous faire une recommandation d'écoute, même si ce n'est pas un épisode d'X-Files, écoutez les deux épisodes de Rose et Chong et vous allez avoir un canevas scénaristique d'une richesse inouï. Et si vous voulez être des complétistes, il y a aussi un autre épisode de Darren Morgan qui s'appelle « And Somehow Satan Got Behind Me », qui est une conversation extrêmement beckettienne entre quatre vieux monsieur dans un restaurant de beigne qui parlent très allègrement de leurs méthodes respectives de damnation des âmes. Et on se rend compte essentiellement que ces quatre vieux monsieur qui se voient probablement chaque semaine, ce sont quatre démons profondément ennuyés et à la retraite qui n'ont plus trop rien à faire de leur putain de boulot et qui considèrent que ça ne sert à rien de tenter de damner les hommes puisqu'ils le font très bien eux-mêmes. Donc c'est un épisode très triste, mais en même temps immensément drôle, très beckettien puisqu'il se passe entièrement dans un magasin de beigne avec
souvent,
des démons.
Puis il y a souvent un côté très humain. C'est toujours très humain. On peut toujours trouver un petit côté positif, même dans Clyde Brockman, qui est un épisode essentiellement assez triste. On fait pas de gâcheux. Il y a moyen de le voir un premier coup puis dire c'est juste triste, c'est bien pessimiste, mais il y a moyen de voir une petite lumière.
Ben, je suis entièrement d'accord. À travers tout ça. La dernière parole de l'auteur Jose Chung dans l'épisode From Outer Space, c'est que alors que tant d'entre nous tentons de trouver une preuve de l'existence de la vie dans le cosmos, on a tendance à tous ou à peu près oublier comment connecter les uns les autres, et à ça, on est très, très, très mauvais. Donc, autant dans ces épisodes-là que dans plusieurs des épisodes humoristiques qui sont sombres, il y a effectivement cette pointe lumineuse, bonhomme, je suis entièrement d'accord, où ça suggère, bordel, est-ce qu'on va avoir énormément de difficultés à connecter dans les décennies à venir? Pour moi, c'est ça qui fait que la prochaine saison qui viendra de X-Files a tout à dire. Et qu'il y a plusieurs gens qui se disent, mais quel est l'intérêt? Ben, à mon avis, l'intérêt réside en plusieurs choses. Le retour, évidemment, de ces deux comédiens-là ensemble, on a envie de le voir pour oublier le dernier film, qui était le chien non faible de toute l'entreprise. Parce qu'on sait que Cigarette Smoking Man et Skinner seront de retour. Parce qu'on sait que Glenn Morgan est de retour à l'écriture. Parce qu'on sait que Darren Morgan écrit le troisième épisode et que le titre, c'est Mulder and Scully versus the Werebeasts. La sensibilité de série B est là. Mais moi, ce que je veux savoir, moi, j'aimerais ça entendre vos opinions sur ce qu'une potentielle saison de X-Files en 2016 pourrait avoir à dire. Mais de mon côté, ce que je trouve intéressant, c'est que la communication, l'échange d'informations, le partage d'informations, l'obsession qu'on a pour la communication est totale maintenant. Et ce n'était pas le cas au premier balbutiement d'X-Files. Au premier balbutiement d'X-Files, les méthodes de communication privilégiées que serait l'Internet étaient à leur premier balbutiement. Maintenant, tout le monde y a accès. Donc, on est devant une génération de smartass qui connaît toutes les conspirations.
Puis, on voit au fil de la série aussi, ils ont des cellulaires au début, mais c'est utilisé avec plus de parcimonie, puis plus ça va, ça devient, le cellulaire devient très, très important, comme ça l'a été.
Ben voilà.
Tu parlais de Zeitgeist. Geist aussi, c'est un aparté, mais au niveau un truc très années 90, j'ai les guides sous la main, et parler tous les titres pourraient être soit un nom de groupe alterno grunge ou
metal,
ou un titre de pièce
F et Masculata, tu sais, des noms qui ont fait Die Hand, Die Verletz, des ouais, effectivement.
Puis beaucoup de titres en un mot. Je veux dire, ça pourrait être, tu sais, comme ça me fait penser à Bleu, Oasis, tous ces trucs-là qu'il y avait.
C'est tellement vrai.
Et puis, je veux dire, le logo, c'est une police typographique de dactylo smudgé. Je veux dire, y a-tu plus années 90 que
non,
ça, tu sais?
Non, non,
mais ça vieillit très bien, étrangement.
Ben, comme tu mentionnes ça, d'ailleurs, évidemment, un autre aparté. Il y a eu un disque de musique dans les années 90 qui a énormément vendu, qui s'appelait Sounds Inspired by the X-Files. Sounds in the Key of X. Écoute, je sais pas si tu te souviens, bonhomme, mais t'avais T'avais Nick Cave avec son Red Right Hand.
Exactement.
T'avais Screaming Jay Hawkins.
T'avais du Marilyn Manson. T'avais une toune d'Elvis Costello. Il y en avait une gang comme ça.
Il y en avait toute une gang. C'était effectivement des chansons qui créaient un peu le mood.
Oui.
Mais t'avais lorsque tu ouvrais ton disque, t'avais dans le coin de la superbe illustration une petite mention qui disait Nick Cave et The Dirty Trio voudraient que vous vous rappeliez que zéro est également un nombre. Ce qui fait que si tu donnais la peine de te poser la question ce que ça voulait dire, il y avait une toune cachée sur le disque. Évidemment, ils sont plus cachés de nos jours. Tu pluguais ça sur ton ordi, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, pour écouter la chanson « Zéro » de Nick Cave, qui était incroyable, il fallait reculer manuellement 4 minutes de ton disque après la chanson 1 pour pouvoir écouter cette fameuse chanson secrète. Donc ça, c'est plus possible maintenant.
Non,
ça pouvait juste
pas
être possible à l'époque. L'esprit était complètement là. Donc, moi, c'est ça que cette prochaine saison-là aurait, à mon humble avis, à suggérer ou à montrer. Qu'est-ce que Mulder et Scully, avec les méthodes qu'ils avaient à l'époque, peuvent faire maintenant? Est-ce qu'ils seront plus efficaces ou moins? Est-ce que ce sont des désaxés dans une époque où ils sont des dinosaures?
Puis, c'est que la réflexion sur le paranoïa, je pense qu'X-Files, malgré le fait qu'on a parlé, c'est une émission qui vieillit très bien, c'est sous Bill Clinton.
Oui, absolument.
Donc,
absolument.
Parce qu'avant ça, la paranoïa, on ne peut pas la placer pour des ovnis, des trucs comme ça. C'est la guerre froide. On est occupé à d'autres choses. Mm-hmm. Après ça, c'est la guerre contre le terroriste qui commence. Ça devient sérieux. Les Américains ne se permettent pas pendant à tout le moins une couple d'années de douter du gouvernement. La situation est trop grave. Là, on peut se le permettre parce que ça commence à s'user, tout ça. Puis justement, les théories du complot font partie de la vie de tous les jours. Clément, on en parlait avant l'émission. Et puis, je pense que ça revient précisément au bon moment par rapport à ça. Je pense une réflexion, je veux dire, c'est sûr que ça prend une émission qui va être une réflexion sur la paranoïa, sur la conspiration aujourd'hui.
Mais la nouvelle paranoïa.
La nouvelle paranoïa, parce que je veux dire, il y a un renouveau de la paranoïa, parce que Chris Carter le disait souvent, une de ses influences, c'était beaucoup All the President Men, et puis, en étant ado, de voir le scandale du Watergate s'éplucher, qui est une véritable conspiration.
Oui, ben on se souviendra qu'un des personnages importants, puis ça aussi, on veut d'ailleurs que dans la nouvelle saison, il y en ait un, c'est cet informateur qui est toujours dans l'ombre, de Mr. X à The Unibomber, et le plus important, le Yoda de l'univers de X-Files, le personnage de Deep Throat, qui est finalement Deep Throat, pas seulement une référence à un film que tout le monde a vu, mais une référence évidemment à ce fameux informateur qui a révélé évidemment le scandale du Watergate. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on a les vestiges d'une époque conspirationniste qui passe son savoir à une nouvelle génération conspirationniste. Alors à mon avis, ce serait logique que Mulder et Scully doivent devenir eux-mêmes les informateurs d'une nouvelle génération d'enquêteurs. En quelque part, qu'ils soient ces espèces de légendes de maîtres à penser de la conspiration qui sont dans l'ombre et que toute une génération connaît.
Il y a déjà un petit peu de ça dans la série. Une fois de temps en temps, c'est pointé que quand Mulder va croiser des ufologues, souvent ils vont dire « Ah oui, on a lu tes trucs. » C'est déjà une référence dans l'univers.
C'est que Mulder est une double référence, dans le fond. On a tendance à l'oublier. Il est une référence sur le phénomène OVNI, mais il est aussi une référence en ce qui concerne le profiling. C'est techniquement un des meilleurs profilers. D'ailleurs, deux pairs de l'époque, deux peurs typiques des années 90, l'extraterrestre et le tueur en série. Mm-hmm. Le tueur en série qui va devenir le dada des années 90.
Excuse-moi, Clément. X-Files, la genèse de X-Files, c'est Cold Shack de Night Stalker.
Oui.
Silence des agneaux, mis ensemble. On a X-Files.
Ben, tu vois, pour moi, oui. Cold Shack, The Night Stalker, qui est un show fort malheureusement qui doit se faire redécouvrir parce que le niveau humoristique très tongue-in-cheek, très pointu, très sardonique qu'a X-Files était déjà là à ses balbutiements. Kolchak est un agent de police qui est un spécialiste... Qui est un spécialiste de toutes les affaires paranormales possibles, mais à qui ces choses-là, parce qu'on s'est tous déjà posé la question, qu'est-ce qu'une journée normale dans la vie de Mulder et Scully? Finalement, chacune de leurs journées est la confirmation qu'il y a des démons, des extraterrestres et des monstres marins. Mais Kolchak, c'est un personnage précisément comme ça qui est plus surpris, qui sait qu'il y a des personnes qui sont essentiellement des aimants à étrangeté et qui doivent composer avec cette réalité-là. Kolchak est un excellent show, fort malheureusement, je pense que c'est Frank Spotnitz qui a voulu en faire un remake dans les années 2000 qui a complètement échoué. Mais je trouve qu'il y a un show qui est jamais mentionné, qui est forcément, à mon humble avis, au moins une inspiration lointaine, au moins une inspiration directe à X-Files. C'est un show qui était une production canadienne et américaine dans les années 90, qui avait le titre très étrange de Friday the 13th.
The Series,
qui avait rien à voir avec Jason Voorhees et rien à voir avec Friday the 13th, qu'on connaît au Québec sous le titre La boutique des maléfices. Ou la boutique... Ouais, la boutique aux maléfices.
C'était épeurant.
Non seulement c'était épeurant, mais on avait trois personnages dans ce show-là. On avait une très jolie rouquine, très peu courante en télévision à l'époque, qui, ici, on inverse la proposition, qui croit à fond au paranormal. On avait son cousin Jock, un peu lanky, un peu aventurier, qui lui n'y croyait absolument pas. Et c'est le clash entre leurs deux façons de fonctionner qui devenait intéressant dans l'émission, mais aussi la tension érotique qu'il y avait entre les deux et qui avait jamais de résolution, exactement comme dans X-Files. Et on avait un personnage d'informateur dans l'ombre qui croit à fond à l'occultisme et pour qui les secrets du monde sont révélés depuis très longtemps.
Mais il les avait côtoyés justement, qui était l'oncle des.
Qui est l'oncle. Et le pitch, de la série, c'était essentiellement les Monster of the Week épisodes de X-Files de A à Z. Il s'avère que le frère de ce vieux personnage sage, d'oncle, était un sataniste qui a vendu à partir d'une boutique une série d'objets maudits. Et le but de nos personnages, c'est de chasser ces objets disséminés un peu partout à travers le monde pour les remettre dans la boutique et protéger les gens. Mais les malédictions qu'il y avait autour de ces objets étaient incroyable. Des gants de boxeur qui permettaient à l'ombre de ce boxeur assassin qui avait tué des gens. Quiconque mettait les gants de boxeur pouvait utiliser sa propre ombre pour tuer des gens à coups de poing.
L'épouvantail avec la faux qui coupait les têtes.
Oui.
C'était assez graphique,
cette épisode-là. Une poupée qui tuait.
On en a une dans X-Files.
Et qui se ressemble comme deux gouttes d'eau. Par ailleurs, les deux poupées se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Les aiguilles à tatouer qui sont hallucinogènes et qui donnent vie au tatou qui rend tranquillement pas vite la personne folle. Il y aura un épisode de X-Files là-dessus. Ce sera d'ailleurs Jodie Foster qui fera la fameuse voix du tatou que Gillian Anderson a sur le bras. Donc, exactement encore la même chose. C'est des tatous qui sont faits avec de la pigmentation hallucinogène. Il y a même un épisode particulièrement trash où il était question d'une tronçonneuse à tronc d'arbre. Finalement, une machine à travers laquelle on fait passer un moulin à scie essentiellement. On fait passer un tronc d'arbre puis il y a des planches de l'autre côté.
Donc, c'est
un gangster. Voilà. C'est un gangster qui a la capacité de faire passer des gens dans ce moulin-là et la totalité de leur fortune est déversée de l'autre côté dans un sac. Et l'épisode finissait avec une espèce de charge dramatique comme on a retrouvé dans X-Files. Il finit dans une mêlée à tomber dedans et il y a quelques sous noirs qui tombent de l'autre côté parce que cet enfant de pute n'a jamais eu d'argent de sa vie. Donc, tout dans le climat, la signature... l'humour, et c'était épeurant. Ce show-là était vraiment épeurant pour les années 90. C'est venu quelques années seulement avant le début d'X-Files. Jamais aucune forme de déclaration officielle d'inspiration n'a été faite. Et pour moi, ça n'a peu de sens.
Bah, d'une part, je dirais que merci de m'avoir fait découvrir ça, parce qu'il faut absolument que je saute dessus.
Trois saisons.
Et je peux pas m'empêcher de penser, dans une certaine mesure, pas entièrement, mais ça me fait quand même furieusement penser à Bazar de Stephen King,
qui est mon
Stephen King préféré. Et ça fait tellement penser à ça, ce côté objet maudit, de dire « ouais, tu vas faire juste une petite blague à telle ou telle personne, mais ça va se terminer en guerre ouverte et en maléfice pour terminer que c'est le diable lui-même qui a pris possession des lieux ». Et c'est assez incroyable parce que ça m'y fait furieusement penser dans ce que vous décrivez.
Donc... Ben, d'ailleurs, Stephen King a écrit l'épisode « La poupée maudite » de X-Files.
Voilà.
Et puis, autant celle de X-Files que celle de Vendredi 13, la série, était donc « La boutique aux maléfices », c'était une référence à « La poupée maudite » de Twilight Zone. Donc, voilà. La quatrième dimension.
Et voilà.
Pour l'anecdote, le lien très ténu avec Vendredi 13, donc la série de films avec Jason, le tueur au masque de hockey, le dernier système de la série était censé être le masque de gardien de but.
Ah, mais ils n'ont pas pu le faire, finalement.
Ils n'ont pas pu le faire. Il n'y a jamais eu de lien, finalement.
Il n'y a jamais eu le moindre lien. Non, ça a rendu un peu les gens confus, parce qu'il y a eu une série de Nightmare on Elm Street qui était essentiellement sur le même mode que Tales from the Crypt, Freddy Krueger n'était pas un participant dans l'émission, c'était le narrateur d'une série
d'histoires
d'horreur.
C'était le narrateur, mais au moins, il y avait une cohérence avec la série.
Oui, et ça faisait du sens, parce que oui, on imagine Freddy Krueger être ce genre de narrateur-là, c'est de toute évidence.
Il en connaît des histoires épeurantes.
Voilà. Mais Friday the 13th, aucun lien maintenant, finalement. Mais écoutez, même physiquement, la dichotomie qui entre la protagoniste et le protagoniste est très similaire à celle de
David D'ailleurs, au niveau de X-Files, c'est vraiment Chris Carter avait pris soin d'inverser les rôles traditionnels, d'avoir la fille qui était celle qui croyait et puis l'homme qui était le sceptique. Il a vraiment inversé ça et puis ça a été une grosse influence, je veux dire, beaucoup de personnages féminins forts en télé.
Oui.
Je pense il y a beaucoup de personnages qui doivent beaucoup à Scully par rapport à ça.
Ben, en fait, citons ceci, je suis un maniaque de la série de Hannibal.
Oui.
La série de Hannibal fait régulièrement référence ouverte à X-Files et à Millennium comme un des maîtres à penser. Eux autres, ils disent, c'est pas compliqué. Si Silence of the Lambs ont inspiré X-Files, récupérons tout ça. Récupérons ce que X-Files a eu à dire de Silence of the Lambs et de Seven, par extension. Donc, il y a un personnage joué par Gillian Anderson dans Hannibal. Et de toute évidence, tout dans cette série-là fait pas non seulement hommage au personnage de Scully, mais fait ouvertement référence au fait que dans les années 90, des agents du FBI et des policières de 5 pieds 2 rousses qui réussissaient à affronter le monstre, on le doit et à Clarice Starling, on le doit et évidemment à Jodie Foster, qui d'ailleurs fait une voix dans X-Files, et on le devra à Scully. Scully devient le prototype de toutes les femmes enquêteuses par la suite. Même The Fall, récemment, continue sa chasse de tueurs en série dans un esprit qui n'est pas très loin de son personnage de Scully. Moi, je trouve que le personnage qui est joué, il y a quelque chose de similaire. Il y a quelque chose de similaire.
Elle serait Scully, en fait, le personnage dans The Fall. Je trouve qu'elle serait Scully si elle n'avait jamais rencontré Mulder. Mettons.
Oui, absolument. Ouais. Avec moins de chaleur.
Oui.
Ça serait un personnage beaucoup plus froid. Ouais. Parce que Mulder et Scully rehaussaient l'un et l'autre leur humanité profonde. Mm-hmm. C'est d'ailleurs probablement l'aspect le plus fort du show, et c'est ça qu'il faut absolument retrouver dans la sixième saison. David Duchovny disait que ce qu'il y avait d'intéressant avec Scully, c'est qu'elle était le human credential de Mulder. Que s'il n'avait pas Scully, il n'y a personne qui peut donner de crédibilité humaine à cet homme-là.
Mais pour moi, il y a un épisode qui résume parfaitement ce que tu dis et qui, à mon sens, est peut-être mon épisode préféré. C'est l'épisode avec Drew, j'ai oublié son nom de famille, le preneur d'otage, ancien agent du FBI qui est persuadé d'avoir...
Krycek. Non, je me trompe.
Ouais, je suis pas le seul à avoir...
Le frère de Mulder
Non,
Dwayne Barry?
Oui, voilà, merci.
Voilà. Merci. C'est un two-parter de la deuxième, troisième saison.
C'est exactement beau, qui est un des moments forts.
Le personnage de Barry, cet épisode-là, et tous les personnages sont exceptionnels parce que c'est typiquement le spooky Mulder, c'est-à-dire le Mulder que personne ne croit, qui est appelé pour gérer une prise d'otage. On sait qu'il est obligé de le gérer parce qu'il n'y a que lui qui peut gérer ce genre de délire, mais personne ne lui apporte crédit, et pourtant c'est lui qui porte l'épisode. Et derrière, on a Scully qui va rehausser l'épisode en disant « C'est un malade mental, il faut absolument que tu ne prêtes pas crédit à ce qu'il te dit parce qu'il est sujet à de violentes paranoïas et de terribles accès de violence. » Donc, quelque part, on se retrouve avec les deux personnages de Scully et Mulder qui sont complètement complémentaires, ils ont besoin l'un de l'autre. Et on retrouve totalement ce mouvement de balancier entre le fait qu'il n'y a que Mulder qui peut parler à quelqu'un qui a été enlevé par les aliens parce qu'il est directement touché par ce phénomène-là. Le FBI ne peut rien faire sans Mulder parce que c'est le seul qui peut agir. Mais d'un autre côté, on a l'idée que le preneur d'otage est un malade mental à qui il ne faut pas prêter crédit. Donc, on brouille toutes les cartes, mais tous les personnages sont absolument nécessaires à la résolution de cet épisode qui va d'ailleurs ne pas se résoudre par l'enlèvement de Scully.
Ben, tu vois, la prochaine saison doit absolument, à mon avis, traiter de cette notion-là. À travers tout ce qu'ils ont vécu, et les films, même le dernier qui est très mauvais, nous le confirment, les traits les plus sombres de nos deux personnages se sont cristallisés. Après tout ce qu'ils ont vu, il y a encore moins qu'avant une possibilité d'appartenance au monde. Ce sont plus que jamais des outsiders au monde. Et ce qu'il va falloir voir dans la prochaine saison, c'est de voir comment ils doivent être ensemble.
Il est très décrié, le dernier film. Je suis un des seuls à l'avoir aimé, en fait. Mais parce qu'il y a ce côté-là que j'ai trouvé extrêmement mature. Et puis, ça prouve à quel point la relation entre Mulder et Scully peut être complexe et puis peu orthodoxe. Il y a tout le côté qu'ils sont ensemble, mais ils sont pas ensemble. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu des vies tellement exceptionnelles qu'ils pourraient pas avoir aucun autre partenaire de vie possible. Et puis en même temps, donc...
C'est récalcitrant.
C'est récalcitrant, ouais. C'est ça. Il y a comme un côté où, oui, ils sont venus qu'à consommer leur union, mais il y a comme un genre de fatalité, puis un genre de banalisation là-dedans que j'ai... Puis, tu sais, comme ça peut arriver des couples qui, tu sais, qui s'aiment... Pas vraiment qui s'aiment pas, mais je veux dire, il y a une tendresse sans avoir nécessairement d'amour. Puis c'est très rare qu'on voit ça, que ça soit au cinéma ou en télé. Et puis, il n'y aurait pas pu... Aucun film n'aurait pu partir avec un couple comme ça d'emblée. Ça prenait un couple avec ce bagage-là.
Bonhomme, c'est de loin... L'analyse qui arrive à rehausser un des éléments forts de ce film-là que je m'attendais pas d'entendre. C'est comme si la perte de toutes les qualités de bon épisode de X-Files, qu'on ne trouve pas dans ce film-là, m'a probablement empêché de vraiment savourer cet aspect-là du film, parce que en me réchauffant la mémoire, en me le disant, oui, c'est un des aspects forts. Que les gens se disent, se fassent des tatas du bateau à la rive.
Oui, il y a des petits bouts qui sont manqués. Je veux dire, comme il y a des épisodes qui sont très, très mauvais dans la série, ben oui. Malgré le fait qu'on l'aime beaucoup,
mais
la série, il y a des épisodes un peu puants, ça et là.
Tu as tout à fait raison. C'est comme, finalement, un des aspects de la série non résolu sur lequel ce film-là planche.
Oui, et puis, tu sais, essentiellement, la première scène, c'est Mulder, barbu, puis Scully qui dit « ça te tente-tu de coucher ensemble? » Puis il fait comme « non, pas ce soir, j'ai mal à la tête. » Puis c'était le pervers un peu assez porté sur la chose au départ.
Dans le fond, c'est la dimension soap.
Puis ça commence avec ça.
C'est
oui,
la dimension
exactement. Usée, plate, grise, là, tu sais. Là. Mais en même temps, touchante, tu sais, parce qu'on voit qu'ils ont une belle relation, qui ont une belle amitié entre les deux. T'sais.
Mais c'est tellement rare maintenant un film ou une série américaine avec un personnage masculin et un personnage féminin en termes de héros qui ne se sautent pas dessus fatalement au bout d'un moment. Et c'est ça pour moi la grande force de X-Files, c'est que pour moi la relation entre Scully et Mulder, elle est posée sur, oui, une ambiguïté, mais surtout une amitié qui se mue en volonté de sacrifice l'un pour l'autre, mais... Ils ont jamais complètement cédé à l'envie de faire en sorte qu'ils sautent dessus, quoi. C'est quelque chose que je trouve assez génial.
Chris Carter y a tenu très très longtemps. En donnant comme exemple, si je ne m'abuse, la fameuse série avec Sybil Shepherd et Bruce Willis, Moonlighting, où ce rapport-là a tenu très 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 longtemps, pas une ambiguïté, mais une tension érotique entre deux personnages qui ne consommaient pas la relation amoureuse, qui a fait le succès du show. Donc, à chaque fois que les gens de Fox disaient « Mais là, il faut qu'il y ait du sexe, là. Il faut qu'il y ait une relation entre les deux », Chris Carter de dire « Moonlighting ». Allez voir combien de temps ce show-là a fonctionné et les deux vecteurs de tension érotique ne consommaient pas l'amour.
Et même le premier baiser entre Mulder et Scully qu'on voit à l'écran, c'est dans l'épisode Triangle, qui est, je pense, dans la série 6 même, ou 5 ou 6.
Ah, 6, non, là, je ne les ai plus. J'ai guide d'un à 5.
Saison 6, c'est entre Mulder du présent et Scully... une version du passé de la...
Attends, ça, c'est le magnifique épisode de Triangle des Bermudes,
oui,
ça.
Oui, oui, exactement.
Dans le bateau où les différents temps sont
mélangés. S'entremêlent et c'est où il y a cet
épisode-là, il est magistral, cet épisode-là.
Il est magnifique. Puis, je me rappelle, c'est ça, ils en ont parlé même, je pense à Entertainment Tonight, ils ont fait comme un segment sur comment ça allait être magnifique, cet épisode-là, avec la poursuite dans le passé, dans le présent, avec les nazis, avec... il y avait tout. Il y avait tout.
Ben, d'ailleurs, ouais. Ceux qui ont aimé ça, peut-être quelques dernières petites suggestions. Ceux qui ne sont pas nécessairement nostalgiques du comics de Topps, mais qui lisent actuellement les comics de IDW, il y a une très, très belle série que je vous recommande profondément qui s'appelle X-Files Year Zero et qui montre la fondation du secteur des X-Files dans les années 50 avec un agent de police trop violent et une militaire tombée en déchéance qui doivent former une équipe récalcitrante et qui forme les bases de ce que deviendra X-Files par la suite.
C'est dans l'épisode de Shapes, qui est dans la première saison, je pense.
Avec on le parle... loup-garou.
Oui, exactement. Avec le loup-garou, on voit que Mulder, il parle du premier X-Files, et c'est J. Edgar Hoover qui l'a créé.
Ouais.
Et puis c'était les U-Files au départ. Mais il n'y avait plus de place dans le dossier pour les... C'était You pour Unexplained, mais il n'y avait plus de place dans le dossier. Fait qu'ils ont dit, prends les X. De toute façon, il y a pas beaucoup de dossiers qui commencent par X.
Chers auditeurs, c'est tout le temps que nous avions pour vous parler d'X-Files. On se revoit dans 2 semaines, mercredi, même bat-heure, même bat-chaîne. To the living fields.
Prochain, le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émile-Île à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Klopelgag, Candle and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Braque et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au salon du vinyle et de la musique. Le festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit, c'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com.
L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe Zebda, les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Kassa V invité et les harmonies gospel soul jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com.